Les quadragénaires, hein. Vous êtes des quadragénaires au niveau d'une communauté. 40 ans, c'est formidable. Alors effectivement, Anne-Claude l'a répété, enfin l'a rappelé tout à l'heure, vous avez vécu cette fête dimanche dernier, et puis quelques mots d'ordre, un vocabulaire et des pensées, des pistes qui sont ouvertes. Et je voudrais exploiter un petit peu quelques-unes de ces pistes, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Et pour ce faire, je vais vous partager quelques éléments du psaume 133. Il y en a qui connaissent ce psaume 133 ? Oui, vous connaissez ? Sûr, vous le connaissez ? On sait bien. Il est beau, mais je trouve qu'il n'est pas facile. Alors voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de pouvoir nous y arrêter un petit peu. Je vais le faire en deux parties. Tout d'abord, une approche biblique. Je crois que ça vaut la peine. Et puis... donner quelques mots de témoignage par rapport à cette thématique essentielle pour moi que j'aimerais souligner, enfoncer le clou un petit peu sur la communion fraternelle, sa dynamique. C'est facile pour vous la communion fraternelle ? Oui ? C'est bien ? Alors, si tu es un petit peu en trois images, essayez de souligner quelques aspects de ce psaume 133, parce que franchement, si vous lisez ça à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, le vocabulaire utilisé, anachronique, désuet, voilà une vue de la reconstitution de Jérusalem à l'époque de Jésus, avec ce temple qui était le centre vital de la vie spirituelle du peuple juif. C'est là qu'on offrait les sacrifices, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce niveau-là. Alors j'ai mis en filigrane quelques noms. Israël, ben voilà, ce peuple à qui Dieu s'est révélé, qui était mis à part. Non parce qu'il méritait davantage que d'autres peuples, c'est l'élection souveraine de Dieu. Voilà. Et puis ce peuple, à un moment donné, a voulu un roi. Il ne voulait plus tellement que Dieu soit leur roi. Il voulait un roi comme les autres nations. Et parmi ces rois, il y en a eu un qui était exceptionnel, David, un roi selon le cœur de Dieu. Et... lui, il avait à cœur de louer Dieu, il était chanteur, il jouait des instruments, il a composé beaucoup de psaumes. Il aimait Dieu de tout son cœur. Et il est venu, il a pris Jérusalem avec ses armées, il aurait voulu construire le temple, mais Dieu n'a pas voulu que ce soit lui, mais que ce soit son fils Salomon. Mais il y avait le tabernacle, c'était un temple portatif qui avait été utilisé par les Hébreux dans le désert. Puis là, c'était le moment d'aller plus loin. Il allait rester à demeure, comme on dit, et toutes les tribus d'Israël pouvaient venir jusqu'à Jérusalem. Jérusalem appelait aussi le mont Sion. Donc il y a le Sion en vallée, mais dans la Bible, Sion, c'est Jérusalem. C'est bon de le savoir. Hein, et ces 12 tribus venaient louer le Seigneur, les trois grands moments des fêtes juives, Pâques, Pentecôte, les tabernacles en automne. Voilà. Et puis ce temple va être, en l'an 70 de notre ère, il va être détruit. Voilà. J'ai mis un petit bandeau, le mur des lamentations, c'est ce qui reste de ce temple qui a été détruit. Alors, chant des montées, parce que ça correspondait justement à ces montées. Jérusalem, c'est 700 mètres d'altitude. Et puis parfois en Israël, on est à moins 400 mètres au-dessous de la terre. Donc les montées, on monte à Jérusalem pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et on vient de loin, d'Israël, mais plus tard de tout le bassin méditerranéen dans l'histoire juive. Parce que là, à Jérusalem, c'est l'endroit pour un juif où la perception de la présence de Dieu est la plus notable, la plus sensible. Alors, quand on se retrouve, on est des cousins, des cousines, pas forcément chaque année, on pouvait monter 3 fois par année pour les fêtes, mais ceux qui habitaient tout près, c'était facile, ceux qui habitaient un peu plus loin, c'était difficile. Voilà une image un petit peu pour montrer ce cadre. En tout cas, joie de se retrouver, joie de célébrer le Seigneur ensemble. Dans cette présence de Dieu là, qui est si sensible, c'est très particulier cet endroit. Puis, il y a une comparaison, c'est comme l'huile précieuse versée ou répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le col, sur le bord de ses vêtements. Ouais, si vous lisez ça à votre voisin qui n'a jamais lu la Bible, dis-donc, explique-moi. Justement, ce peuple était particulier parce qu'il bénéficiait de ministères très spécifiques à son existence, comme celui d'un grand prêtre, qui faisait le lien entre la terre et le ciel. Et ce grand prêtre, il était sélectionné, choisi, c'était quelqu'un d'une tribu spéciale, la tribu des Lévites. Et le moment de sa consécration, de ce moment où il recevait l'huile qui était répandue sur sa tête avec abondance, avec générosité, c'était un moment marquant où, pour ce peuple qui avait été rendu sensible à ce Dieu créateur, ce Dieu rédempteur qui les avait rachetés d'Égypte, qui leur donnait une loi, qui faisait alliance avec eux, eh bien, c'est la présence de ce grand prêtre qui pouvait lui seul, une fois par année, entrer dans la présence de Dieu pour apporter un sacrifice. On savait que le peuple était pardonné de toutes ses erreurs, de tous ses manquements. Ben, c'était exceptionnel, c'était un privilège pour ce peuple et une responsabilité. Et puis cette huile, elle descendait, elle coulait sur le bord de ses vêtements, sur le pectoral, avec ses 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors quand la communion fraternelle peut être vécue authentiquement, c'est comme pour ces Hébreux qui, à l'époque, avaient pu vivre ce moment solennel, extraordinaire. Donc, privilège magnifique. Et cette huile, elle était faite selon l'art du parfumeur. Ce n'était pas l'huile à salade. Voilà, c'était une huile d'onction. C'était ce qu'il y avait de plus excellent en Israël, qui symbolisait la richesse de la vie divine. Et sa profusion suggère la richesse avec laquelle Dieu bénit et sanctifie son peuple. Et j'espère que ça peut nous aider vraiment à comprendre tout cela. Et une troisième image. Désolé, ça passait mieux comme ça la carte, mais vous l'avez à la fin de vos Bibles, à la verticale. Voilà Israël avec la mer Morte, avec la mer de Galilée, tout à droite. Et puis l'Hermon, qui est tout au nord d'Israël de l'époque, avec ses neiges éternelles. Et voilà, il est question de cette bénédiction de la communion fraternelle qui est comparée à la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. Alors, vous voyez, 150 km de distance, c'est un peu un miracle d'imaginer que cette rosée de l'Hermon puisse aller jusqu'à Jérusalem. Il semble que, scientifiquement parlant, c'est possible, parce qu'il y a ces neiges éternelles, en Israël il fait chaud, il y a l'évaporation, des gouttelettes d'eau qui peuvent, avec le vent du nord, venir jusqu'à Jérusalem. Il y a une image de fertilisation des sols aussi à travers cela, dans un pays où il y a beaucoup de chaleur. Et puis aussi d'une vie qui est vivifiée, on peut dire, même au plan physique. On le voit bien maintenant avec ces changements de climat, quand il y a des fortes chaleurs. Hein, j'étais dimanche dernier avec le club de pétanque de Montrichet, nous étions à la Tsuma, puis il faisait chaud, malgré l'altitude. Puis j'avais jamais vu cette installation, c'était un gros ventilateur, qui était juste, il y avait un seau d'eau derrière, puis ça diffusait des gouttelettes. C'était vers le bar, ça allait bien, on buvait l'apéritif, et puis on était arrosé par ces petites gouttelettes. Ah, il dit, oh, mais tiens, ça m'a donné un petit peu l'illustration de ce qui était vécu ici. Fécondité, fertilité, vitalité, fraîcheur. Waouh! Et c'est intéressant dans le discours de Pierre à la Pentecôte après la guérison du paralytique, là, du boiteux qui était à la porte du temple. Pierre annonce, fait un discours là, parce qu'il y a eu la guérison miraculeuse, et il dit que le Seigneur envoie des temps de rafraîchissement. Il me disait, tiens, ben, la communion fraternelle, quand elle est bien vécue, on verra tout à l'heure qu'elle n'est pas si évidente que ça, mais quand elle est bien vécue, c'est comme un rafraîchissement. J'étais hier matin pour la réunion, une réunion de préparation des Kids Games. Vous connaissez les Kids Games, hein, pour les enfants de 7 à 14 ans. Vous savez qu'il y en a à Apple cet été, pour les enfants de 7 à 14 ans. On a l'encadrement, on a encore de la place pour les enfants. Si jamais vous connaissez des familles qui ont les enfants de 7 à 14 ans, ben, vous pouvez nous les envoyer, on en prendra soin. Et c'était un moment magnifique, moi qui j'étais rafraîchi. On était environ des délégués des 17 lieux où auront lieu les Kids Games au début du mois d'août. Puis c'était un officier de l'armée du salut qui a un ministère parmi les enfants et la jeunesse qui a donné la touche d'envoi, enfin, départ de cette journée, de cette matinée, avec tous ces jeunes qui étaient là. J'étais bien sûr le patriarche au milieu, mais. Et puis cet homme, il a un ministère, ce frère qui était magnifique, il a mis ces jeunes en route, un peu comme cette dynamique de louange tout à l'heure, mais ça a donné le là à la journée. Et voir tous ces jeunes qui dansaient devant le Seigneur et tout, qui se levaient pour servir le Seigneur, c'était tellement rafraîchissant. Moi, je ne vous cache pas que je suis allé un peu, bon, en disant, bon, encore une petite réunion de préparation des Kids Games, bon, c'est la 20e année, je ne sais pas trop. Mais oh, je suis venu tout rafraîchi. Et je me dis, ben voilà. Il y a des choses de cet ordre-là qui sont incluses dans cette dynamique-là. Alors, la deuxième étape, là, maintenant, c'est, je sais que vous êtes un petit peu envieux de ces Israélites qui pouvaient vivre cette onction du grand prêtre. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. C'est que il y a dans l'Évangile quelqu'un qui s'appelle Jésus, suivre Jésus. Voilà, Jésus-Christ. Christos, c'est le grec, Messie, voilà ce que ça veut dire. Hein. Celui qui est oint, c'est celui qui est oint par excellence, le grand prêtre, Jésus. Parce que les grands prêtres en Israël, ils étaient pécheurs aussi. Et quand le grand prêtre allait une fois par année dans le lieu très saint, il y allait avec le trouillomètre à zéro. Il était attaché d'ailleurs par une cordelette, parce que s'il était foudroyé à cause de son péché, il fallait qu'on puisse le retirer. Mais les sacrificateurs normaux ne pouvaient pas aller dans le lieu très saint. Mais Jésus n'a pas du tout vécu ça, il était sans péché. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a reçu l'Esprit sans mesure, dira Jean dans son évangile. Ça n'est pas sous-entendement. Il y avait trois ministères dans l'Ancien Testament qui recevaient l'onction, comme ça, une onction de consécration. C'était les rois, les prophètes et le grand prêtre. Bon, dans certains textes, on voit que les prêtres aussi recevaient une onction comme ça, mais. Mais voilà, et Jésus a rassemblé en sa personne ces trois types de consécration ministérielle. Il est unique, il est exceptionnel. Ça vaut la peine de le suivre. Sans mesure, sans restriction, cette triple onction. Phénoménal. Phénoménal. Et Jésus, à un moment donné, vous vous souvenez dans l'Évangile, quand il arrive au moment de la Pâque, après 3 années de ministère et dans la chambre haute, il dit à ses disciples, ils sont tristes, qu'il va les quitter, etc. Il dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai l'Esprit de sainteté, un autre lui-même, le Consolateur. Celui qui vous conduira. Et bien sûr, Jésus était juste limité quand même, physiquement parlant, il est resté en Palestine à l'époque, mais tout d'un coup, les membres de son peuple allaient pouvoir bénéficier d'une onction magnifique. qui allait leur permettre d'annoncer l'évangile parmi toutes les nations. C'était déterminant ce qui s'est passé là. Et Jésus dira lui-même, quand il a ouvert le rouleau de la Torah ou des prophètes dans la synagogue à Nazareth, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Waouh, ce souffle de l'Esprit qui vient à travers cette présence de Jésus parmi son peuple. Cette onction qui va venir, qui va se répandre sur toutes les personnes, les 120 qui étaient réunies dans la chambre haute à la Pentecôte. Hein, on vient de passer cette fête de la Pentecôte. Et bien sûr, il y avait cette relation parmi les membres du peuple juif à l'époque, mais à partir de l'instant de la Pentecôte, eh bien, l'Église est née. Elle vient compléter ce qui a été vécu par le peuple juif. Voilà. Les croyants sont d'origine juive, mais aussi de toutes les nations. C'est une révolution, c'est une nouvelle étape dont nous bénéficions aussi. Lorsque Moïse a reçu l'alliance sur le Sinaï, il y avait cette promesse: « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples. » Car toute la terre m'appartient, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà, c'était pour le peuple juif, mais de manière prophétique, il y avait cette annonce de l'alliance à toutes les nations. C'était le désir de Dieu, avec la promesse à Abraham déjà. Abraham allait être en bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et l'apôtre Pierre, dans sa lettre, dans sa première lettre, dit, en s'adressant, il était envoyé parmi les païens, hein, Pierre, aussi. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. On y compte avec le recul, Pierre qui a été celui qui a été conduit par Dieu pour faire ce discours à la Pentecôte sur Jésus, qui est allé dans la maison de Corneille, cet officier romain qui tout d'un coup annonce ce type de message. Ben, ça scandalisait les Juifs, hein. Il a dû rendre des comptes à ses coreligionnaires à Jérusalem. Il était convoqué par le Sanhédrin chrétien, quelque part. Voilà, ça c'est l'héritage dans lequel nous sommes entrés. Alors voilà, ça c'était les belles choses qui sont là, qui sont magnifiques. Alors, la communion fraternelle, c'est dans le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu. Comment est-ce qu'on la vit ? Ben, c'est pas toujours si simple que ça. Parce que nous sommes des pécheurs, graciés, pardonnés, certes, mais nous restons des pécheurs. Nous avons tous, certainement, des blessures en lien avec notre histoire, avec ce que nous avons vécu sur la terre. Comme disait quelqu'un, la vie est belle, mais l'existence, elle est difficile. Et nous avons besoin de relations les uns avec les autres. Mais parfois, il y a des personnes qui ont été tellement blessées qu'elles ne veulent pas de relations avec d'autres. Et on peut trouver ces situations dans l'Église. Vous aurez bientôt Emmanuel Manlein. J'ai beaucoup aimé le ministère de ce frère en Christ. Il a un bouquin splendide que j'ai mis là. Même s'il va vous parler certainement de ces choses pour votre week-end d'église, moi je vous encourage à acheter ce bouquin, Le combat spirituel. Je le trouve très intéressant. D'une part, il montre que dans le fond, justement par rapport à nos parcours de vie, de ces blessures qui peuvent être là, ça peut laisser des traces. Et des fois, inconsciemment, quand on est dans une communauté, on se dit, tiens, il y a cette personne, mais elle a un petit peu le même physique de cet enseignant qui m'avait fait tellement de mal à l'école. On se projette un petit peu, hein, c'est inconscient. Il y a d'autres choses qui peuvent être là. Peut-être une parole qui est prononcée, puis ça me blesse. Donc c'est quand même tout un défi. Et Emmanuel Manlein parle de ce combat spirituel qu'on peut avoir à mener parce que, justement, par rapport à ces blessures, des fois, le diable a une emprise sur nous. Et parfois, il y a des blessures liées à des conflits où on est blessé, on a de la peine à s'en débarrasser. On a peut-être besoin que des personnes prient pour nous. Et puis, il dit, voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas du tout conscients de cette dimension-là d'un combat spirituel personnel qu'on devrait être amené à mettre en route. Mais si une église locale décide vraiment de faire l'évangélisation et d'aller plus loin que simplement vous savez, Dieu vous aime, mais de parler de Jésus, Jésus sauveur, il dit, mais vous verrez la réaction des gens, tout d'un coup. Mais quoi? Qu'est-ce que je vous disais dire? Donc il dit aussi, en église, on a à mener des combats spirituels. Par rapport à des puissances de ténèbres qui sont là. Vous êtes hors du contexte Pied du Jura. Nous, on est dans l'implantation d'église à Ballon. On est surpris que ma femme, je dois dire, de voir le nombre de situations qui sont en lien avec l'occultisme, avec des guérisseurs, avec toutes sortes de pratiques. Et on est conscient que si on va juste dire aux gens, ben voilà, Dieu vous aime, ben oui, ben, ça leur fera plaisir. Mais il y a comme un voile et ça devient difficile souvent d'aller plus loin. Voilà. Donc, je vais maintenant aller dans la partie témoignage. Deux mots de mon arrière-plan familial, comme ça. Ce n'est pas pour m'apitoyer sur moi-même, c'est pour ouvrir le contraste entre ténèbres et lumière. Voilà, j'ai grandi dans un foyer où la vie était compliquée. Si je fais un sondage parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont dans une situation de ce type. Mais à l'époque, ma maman a divorcé deux fois. Elle habitait dans un village de campagne. Divorcer deux fois, ce n'était pas anodin. Voilà, elle a eu un premier enfant avec un premier mari, qui est mon frère aîné, ce premier enfant. Moi, je suis venu ensuite, et puis voilà. La vie était très difficile pour elle. Elle a beaucoup souffert de ces deux divorces. Elle était jugée, rejetée. Et puis, elle est venue habiter à Lausanne. Voilà, elle a dû travailler, beaucoup travailler. Puis, elle n'arrivait pas à suivre. Elle nous a mis avec mon frère dans un orphelinat quelques mois. Donc, c'était compliqué pour elle, pour nous aussi. Elle avait des moments de découragement. C'était une belle femme, elle travaillait, elle était gérante dans une boulangerie, elle faisait draguer. Elle a eu plusieurs amants qui ont été certainement des bons amants, mais quand elle leur demandait de devenir de la mariée, de l'épouser, puis d'avoir la charge de deux enfants. Mais pour nous, c'était chaque fois au plan émotionnel, et voilà, c'était un peu douloureux. Alors bon, moi j'ai essayé, au niveau de ma vie affective, c'était pas terrible. J'ai essayé de compenser dans le monde, à travers les idoles que le monde nous offre, trouver un sens à la vie, etc. Et curieusement, j'étais croyant en Dieu. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais un croyant sans identité, j'étais une éducation catholique, mais Jésus, Noël, petit enfant Jésus. Bon, c'est bien. Mais par rapport à ma vie, ça ne suffisait pas. Et Dieu était bon. Il a permis que je fasse un apprentissage dans un bureau d'ingénieur à Lausanne, comme dessinateur génie civil béton armé. Puis là, il y a eu des témoins de Jésus sur ma route. Je vais très vite, mais d'un coup, il y a eu une dame qui s'est convertie, puis elle m'a parlé de Jésus, puis elle m'a interpellé, puis je me suis retrouvé un soir pour quelque chose que j'avais jamais vécu, un groupe de maisons avec celui qui avait été mon maître d'apprentissage ma première année, Puis il était marié, il avait trois magnifiques filles, elles jouaient de la guitare, chantaient des cantiques, moi j'étais là au milieu. Puis ils ont ouvert l'évangile, ils ont commencé à parler de Jésus, puis après ils ont commencé à prier les uns pour les autres, moi je priais comme ça. J'ai dit, mais je suis tombé dans une secte, il faut que je m'en aille. Et puis, quand je repartais à la maison, j'étais tout seul dans mon studio, puis je repensais à ces moments, petit à petit, je me disais, mais ça me donnait envie. Ça me donnait envie. Rendez compte, simplement, un foyer heureux avec des enfants. Honnêtement, je n'ai pas l'impression. Je connaissais pas ça. Et puis, ces personnes m'ont invité un soir sur les Hauts de Lausanne, Chalet à Gobet. Il y avait là des jeunes fanatiques dans une école qui s'appelle Jeunesse en Mission. Soirée de louanges. Mais quand j'ai vu ces jeunes, il y avait un amour. Il y avait quelque chose qui suivait là, qui était tellement fort. J'étais transporté dans un autre monde. Moi, au foot, j'avais des bons copains. Ça se terminait en général des soirées bien arrosées. Là, ils étaient aussi avec des soirées arrosées, mais ce n'était pas le même liquide. Et puis, une fois, je suis allé dans un culte à Lausanne. J'étais curieux, j'étais assis à côté d'une petite vieille qui m'a demandé mon prénom. « Oh, je suis content de faire votre connaissance. »« Ah bon ?» Et puis, à la fin du culte, je pensais que tout le monde allait... Les gens restaient, c'était difficile de sortir du banc, il y avait des bouchons, au moins des ralentissements. Et tout ça, ça m'a permis de vivre cette découverte de la communion fraternelle. Et j'ai eu envie de ça, j'ai envie d'être comme eux, d'appartenir au Seigneur. C'était quelque chose d'incroyable. Je voulais faire partie de cette famille. Et il y a eu, voilà, je me suis mis en conversion de nouvelle naissance. Et j'ai découvert ce corps de Christ. Et puis assez vite, il y a eu un appel à un ministère. Donc, je suis allé se former à Jeunesse en Mission. J'ai rencontré Claudine, mon épouse, qui est là ce matin. Puis on a reçu un appel dans un premier ministère. On a eu un ministère parmi les aveugles d'abord pendant 2 ans, et puis après on est parti en France. Alors après la formation académique à Emmaüs, etc., il y a eu la formation sur le terrain, l'émondage, et c'était une période très très difficile. Première année, la grâce. Et puis les 7 années suivantes, la grâce surabondante. Parce qu'on était complètement écartelés. On a mieux compris l'expression « être criblé comme du froment ». C'était difficile, il y avait des tensions. En lien avec la doctrine, le charismatisme, pas charismatisme, des barrières toujours plus épaisses, des murs qui montaient. Et j'en pouvais plus, on n'en pouvait plus. On avait beaucoup de combats avec des enfants qui étaient souvent malades et tout. Et puis, il fallait gérer ça et c'était compliqué. Et là, j'ai découvert davantage cette dimension corps de Christ. Parce que j'ai pu établir des contacts en dehors de la communauté locale qui me mettait en tension, sous pression. Et j'avais besoin d'être renouvelé. Et puis, voilà, j'ai trouvé voilà, des frères gitans, des frères... Voilà, j'allais vers le pasteur réformé, il m'a accueilli, il m'a invité à manger et tout. Alors qu'on me disait, certains me disaient, si tu vas saluer le pasteur réformé, tu n'es plus notre frère. Et moi, ça me détruisait. Parce que mais c'est ça la famille de Dieu. Après, j'ai réalisé que dans le fond, il y a des questions de maturité, il y a un travail de sanctification. Et puis justement, en lien avec des blessures qu'on a pu vivre dans notre parcours, des fois, c'est difficile de se retrouver. Excusez-moi, j'ai envie de dire, parfois j'ai l'impression qu'il y a plus de chrétiens hors de l'Église que dans l'Église. J'espère que je me trompe. Voilà. plus positivement, quand même, au fil du temps, on a pu établir, première semaine de l'année, enfin, début de l'année, janvier, chaque fois, il y a, l'Alliance évangélique propose des semaines de prière. Voilà, on a petit à petit, j'ai réussi à leur faire comprendre qu'on avait des frères qui étaient d'autres confessions, et ils ont commencé à goûter davantage à ces dimensions corps de Christ. Et ils ont été bénis. Après, on est rentré en Suisse, et puis, voilà, ils se sont bagarrés, ils se sont déchirés, mais voilà. Et il y a du temps qui a passé, il y a 30 ans qui ont passé. Et l'été dernier, on a pu retourner à Tarbes, avec Claudine, c'était pas prévu comme ça, on a été invité dans les Hautes-Pyrénées, et puis on a pu manger avec deux couples de responsables de l'époque qu'on a retrouvés. On est allé au culte à Tarbes. On était arrivés, nous, à l'époque, il y avait 10 personnes dans cette église, c'était une implantation d'église. Et là, ils avaient un nouveau bâtiment. Ils étaient 200 membres dans cette église. On a mieux compris pourquoi il y avait des combats où le diable, il avait essayé de détruire. Pour ça que des combats spirituels, quand je lis le bouquin d'Emmanuel Manlein, avec le recul, je me dis, mais je n'avais pas pris conscience assez suffisamment de cette dimension combat spirituel. Mais heureusement, le Seigneur a été bon. Voilà, je dois aller très vite. Anne-Claude ne m'a pas donné d'heure, mais elle m'a dit, vers midi, il faut... Bon. Très rapidement, normalement, je vais vous faire peur si je vous montre ça, mais voilà, ben c'est ce que j'essaie de vous dire. On est à Tarbes, Lausanne. Brièvement, une expérience à Lausanne. On était 10 ans, 11 ans à Lausanne. L'église Villard, au sud, vers la gare. Nous, tout en haut, vers le quartier, le pont de la Chocolatière, Grand-Veine, voilà, tous les hauts de Lausanne, où il y avait la Ligue avant. Après 4 mois, on habite là, c'est Noël. Le lendemain de Noël, on apprend que la jeune femme qui était au rez-de-chaussée, là, elle s'est suicidée. 3 mois après, on voit un jeune qui était tout le temps en train de promener son chien. C'était un gars qui était plutôt marginal, mais voilà, le vétérinaire a dû piquer son chien, il s'est suicidé, le gars. Ça nous a ébranlés. On s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Et puis, on ne connaissait personne dans ce quartier. Oui, voilà, on avait, alors, grâce à l'Action commune d'évangélisation, on a eu des adresses de chrétiens du quartier, hein, finalement, pour faire très vite. On a commencé à rencontrer les chrétiens du quartier, leur dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir, ils étaient aussi sensibles à ces situations, on ne pourrait pas avoir quelque chose là, une présence de Christ. C'est ce qui est arrivé. Dans la galerie marchande, on a pu se mettre d'accord, des chrétiens de différentes communautés. On a dit, qui peut mettre un peu d'argent pour payer un loyer? On a trouvé. Et voilà, on a créé un groupe, Jonathan, avec les chrétiens du quartier, où on ouvrait pour un café sympa la semaine, et repas spaghetti, toutes sortes de rencontres, études bibliques pour ceux qui voulaient. Et ça existe encore. Donc, vous avez vu les dates, on a quitté Lausanne en 2000. Ça existe encore. Et c'était une bénédiction pour le quartier. Et pour nous, c'était tellement fortifiant de vivre ça. Nyon, un flash, le culte le plus fort que j'ai jamais vécu dans ma vie. À un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Israël, on a pu organiser un camp de réconciliation entre des Palestiniens et des Israéliens. Ils font ça, c'est régiment toute une œuvre de Dieu qui se fait. Ils sont venus en Suisse parce que c'est mieux pour eux de partir le plus loin possible, le cadre est meilleur. On s'est retrouvés à 25 dans un chalet en-dessus de Nyon. J'aurais bien voulu que la presse soit là, que les médias soient là. S'ils avaient vu ce groupe composé de Palestiniens et de Juifs qui avaient commencé un chemin avec Jésus, la plupart confessaient maintenant le nom de Jésus, voir la communion fraternelle dans laquelle ils étaient. C'était quelque chose d'époustouflant. Et quand ils sont venus animer le culte le dimanche matin, j'ai jamais vécu un culte aussi fort dans ma vie. Il y a peu de gens qui ne pleuraient pas. Hein. On chantait tous ensemble les louanges du Seigneur. Ça chantait en hébreu, en arabe, en anglais, en français. Et on dit qu'on vit la tension entre le déjà de la Pentecôte et le pas encore de la plénitude du royaume de Dieu un jour, dans la Nouvelle Jérusalem avec un nouveau temple. Et c'est ce qu'on vit. On peut vivre des moments formidables de communion fraternelle qui sont bienfaisants. Puis, on est toujours exposé à des combats qui peuvent aussi être là. Tout dernier témoignage, et je vais conclure, excusez-moi, j'ai pris un peu trop de temps. On est venu il y a 4 ans habiter ici, à Montrichet, à Pompigny. Montrichet, c'est la pétanque, mais... vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, c'est ma Samarie. Je commence à avoir de plus en plus de contacts avec des gens qui sont hors foi, qui sont dans l'occultisme pour certains. Et je crois que Dieu me met sur leur route. Merci pour ceux qui prient pour moi, parce que c'est pas toujours évident, mais... On parle beaucoup de Dieu dans ce club, surtout quand on rate un coup, comme ça. Et voilà. Quelques mois avant de venir à Pompigny, mon ami Maxime Jacquier, qui est pasteur à Gimel, me dit « Oh, mais tu sais, il y a un groupe de prière au temple de Borol qui se réunit tous les 15 jours avec des protestants, des évangéliques. On prie pour la région. » Et je suis allé pour la première fois. 6 mois avant de venir habiter ici, j'ai rencontré, là, comme par hasard, les gens de Pompigny, etc. Et puis j'ai pu prier avec mes frères et sœurs. Et à partir de là, de cette mini-base, on ne connaissait personne à Pompigny. Ben, il y avait 2 personnes de Pompigny qui étaient à cette réunion de prière. Et de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait un groupe de prière de ce type à Pompigny, avec des réformés, avec des évangéliques, etc. Je suis allé à une soirée à Pâques, et il y avait une équipe d'Emmaüs qui était là pour témoigner. Puis je vois... Je crois que c'est Philippe et Cornelia Grandjean qui étaient là, qui sont venus vers moi. Et tu te souviens, on a fait un camp famille ensemble. C'était il y a longtemps, mais ça ne fait rien. Et tout d'un coup, on a découvert là toute une famille de Dieu dans ce village Pompigny. On ne connaissait personne. Et grâce à ces chrétiens, à ces membres du corps de Christ, eh bien, on vit des choses étonnantes à Pompigny. Je n'aurais jamais imaginé ça. Honnêtement, je me disais, purée, on va être dans ces villages de campagne, tout ça. Comment ça va se passer? Eh bien, ça s'est passé magnifiquement bien. Que la grâce de Dieu soit toujours là. Alors voilà, je conclue vraiment en disant, ben voilà, dans le livre des Actes, c'est extraordinaire, cette onction de la Pentecôte, cette communion fraternelle, l'Église qui croissait. Mais il y a eu aussi des embûches bientôt, notamment voilà, les veuves grecques ou des Hébreux n'étaient pas traités de la même manière. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des conflits. Il y a eu des bagarres, Paul est parti en mission, voilà, ils n'étaient pas d'accord avec Barnabas par rapport à Marc, etc. Voilà, et puis à Corinthe, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas ou de Pierre. Voilà, des conflits, des clans, etc. Donc toute l'histoire de l'Église a été marquée par des divisions. Et aujourd'hui encore, ben, c'est nos réalités. Mais il y a une telle richesse dans la communion fraternelle. C'est pour ça que le diable attaque la communion fraternelle. Parce qu'il a la trouille. Il a la trouille que si la communion fraternelle est intense, ça dégage une telle odeur de Christ que c'est quasiment irrésistible. Et dans ce monde qui est tellement déchiré aujourd'hui, c'est terrible hein, ce qu'on vit. On commence à s'y habiter un peu, mais où on s'insulte, où il y a de la violence à tous les niveaux, etc. J'étais mercredi dernier dans la rencontre de prière au temple de Borol. Il y avait une enseignante qui nous disait dans l'école où elle enseigne, mais priez pour nos enfants. Il y a tellement de violence à l'école. Dans ces villages de campagne, ça peut arriver ça. Mais vous ne vous rendez pas compte. Alors, on va vous proposer un temps de Sainte-Seine maintenant. Où peut-être que des choses que j'ai partagées peuvent remonter à la surface. J'ai ma prière avant le temps de Sainte-Seine, qui est vraiment une onction de Saint-Esprit sur vous, mes frères et sœurs, qui vous sent bénédiction. On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui. L'AI, on sait ce que c'est, l'IA aussi. Mais l'IS, l'intelligence spirituelle, c'est quelque chose de très précieux aujourd'hui. Bien, Père Céleste, que tu accordes à mes frères et sœurs, comme un renouvellement d'intelligence par ton Saint-Esprit, pour saisir d'une part les temps et les moments qu'on vit, et d'autre part ton plan précieux pour être une grande bénédiction pour cette communauté, Seigneur, pour qu'elle même soit en bénédiction dans cette région. Tu bénis les responsables de cette communauté, tu bénis tous les ministères de cette communauté, tu bénis les enfants, les ados, les jeunes, les moins jeunes, les vieillards de cette région, et tu permets que cette communauté puisse dégager cette odeur de Christ qui te glorifie. Amen.